chaque personne qui consomme une pièce de contenu de formation. C'est sa responsabilité de la suivre pour apprendre, mais il y a la co-responsabilité de s'assurer que c'était à jour et qu'il manquait rien.
Oui, mais tu l'as dit, co-responsabilité, il faut que l'employeur soit ouvert et mette les ressources pour que ça change.
Exactement.
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif.
Épisode 48. Et si la formation était un sujet à débat? Avec Mathieu Dumont.
Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Allô tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode des Neurodivertissantes. Je suis Solène et je suis accompagnée de Mélissa ce matin. Bonjour Mélissa.
Salut, salut, contente d'être là.
Oui, ça va bien.
Ben oui, on achève notre strike de 50 épisodes. C'est pas rien.
Ben oui, c'est notre objectif de se rendre à 50. Après ouais. Ça, on va prendre une pause bien méritée. Mais voilà, épisode 48, on est accompagné de Mathieu Dumont. Salut Mathieu!
Bonjour!
Tu vas bien?
Ça va très bien, toi?
En fait, ça va. Oui, c'est ça. Tu sais, on avait déjà parlé qu'on ne disait pas « ça va si ça allait moins bien ». Ben c'est ça, c'est un matin où est-ce que aujourd'hui ça va bien, les autres jours, on verra. Et Mathieu, tu es de chez Didact et on va parler de formation aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Comment t'es arrivé à parler de formation? Quel est ton cheminement vers ça? T'as quand même fait un parcours assez atypique, on va dire.
Plusieurs vies dans une et le filon commun, ça n'a pas été trop long que je l'ai compris que, ultimement, mon succès, je veux toujours le bâtir sur le succès des autres. Donc, que ce soit par les aider dans leur projet ou par leur développement personnel, professionnel. Évidemment, avec l'entrepreneuriat, ce qui est le fun, c'est que quand tu développes des gens, tu peux développer des entrepreneurs, des employés. T'sais, ton travail, c'est de développer de l'humain pour qu'ensuite, lui, soit dans une meilleure position d'exécuter. Fait que, je ne suis pas un expert de la formation, à proprement dit. Je ne suis pas un technopédagogue, je n'ai pas de formation là-dedans. J'ai juste beaucoup de temps sur le terrain pour être capable de justement maintenant plus facilement m'adapter aux petites subtilités qui sont nécessaires pour amener une personne à soit se développer ou faire le step avant, clarifier sa vision. T'sais, se développer, on se développe pas. Se développer pour se développer dans ma tête, ça n'existe pas. Se développer, c'est pour nous rapprocher d'une destination. Donc, être capable d'aider la personne à clarifier sa vision, clarifier ses ambitions, ses motivations pour ensuite voir, bon, mais comment on te développe dans ce sens-là. Donc, c'est un petit peu comme ça que la formation et le développement habitent ma vie de façon omniprésente. Et Didact est juste bien tombé sur mon chemin il y a 6 ans. C'était pas prévu. C'est un heureux hasard qui fait que les morceaux du casse-tête se sont tous imbriqués.
Oui, puis t'es quand même président de ça, t'es président.
Oui, donc, exactement.
T'as quand même à t'occuper du développement personnel de tes employés. Donc, ce volet-là aussi qu'on va pouvoir explorer aujourd'hui. Et ça, tu voulais parler?
Oui, bien c'est ça parce que, tu sais, dans le fond, au niveau de ton parcours puis de tes différentes facettes professionnelles, tu sais, moi, j'étais connue dans ton feu podcast Les Instigateurs qui est encore disponible en ligne là, pour au niveau de l'entrepreneuriat puis de se poser les bonnes questions. Ça avait tombé bien dans mon parcours à ce moment-là. Je me lançais puis j'ai comme un podcast sur comment se lancer en entreprise de façon intelligente puis pas trop complexe et compliqué, mais avec juste du gros bon sens qui avait bien de l'allure, tu sais. Puis je sais, à ce moment-là, je sais pas si tu le fais encore, tu sais, de l'accompagnement au niveau de l'entrepreneuriat aussi. Fait que, tu sais, au-delà de Didact aussi, t'es un peu comme un coach.
J'ai ma pratique de mentorat d'affaires, exactement. Ultimement, les gens qui se disent coaching, c'est une méthode, c'est pas un statut, à mon sens. Là, si quelqu'un fait juste du coaching, t'es très unidimensionnel et je pense que tu desserres pas bien ton client. Donc, tu sais, ultimement, je me trouve à faire de l'accompagnement stratégique pour développer des entrepreneurs. Le coaching en est une façon. Mixer avec le mentorat de « gars, voici les trails que j'ai faites, voici mon expérience, voici mon opinion sur ta situation. » Pas juste t'aider à trouver les réponses que tu as déjà dans toi. Un petit peu trop ésotérique comme approche, à mon sens. Donc oui, j'en fais encore. Je te dirais que j'ai ralenti un peu la cadence parce que je ne suis qu'un humain je veux être cohérent avec mon message. Je prône, tu sais, l'entrepreneuriat, l'entreprise, c'est un véhicule. Ça ne te définit pas. Moi, dans la vie, j'ai décidé que je ne veux pas me perdre là-dedans et que je ne travaille pas plus que 40 heures semaine. Puis il y en a qui ça surprend. Je suis comme, il me semble que tu fais plein d'affaires, puis tu es le président, tu devrais tout le temps être en train de grinder. Je suis comme, non, absolument pas. Je veux dire, le frôler, le burn-out, je l'ai fait, je ne veux pas y retourner. Donc, puis je veux bâtir des entreprises qui sont soutenables à long terme. Si ton entreprise, elle est viable parce que quelqu'un doit travailler 70 heures, tu n'as pas une business qui est viable. Avec les années, avec l'expérience, tu viens qu'à comprendre qu'en tant que gestionnaire, il faut que tu appliques ce que tu prônes à tes employés sur ta propre personne. Je veux pas que mes employés fassent d'overtime. Je veux pas que personne s'use par les deux bouts. Fait que, à partir de là, je dois être cohérent et montrer l'exemple. Donc, avec la croissance de Didac, ça demande mon focus parce que Didac reste mon projet numéro un, ma priorité. Donc, tranquillement, pas vite, je réduis la cadence de mentorat. Je vais toujours en faire parce que c'est excessivement gratifiant. Puis en même temps, ça me permet de justement ne pas rester dans un seul contexte de croissance, m'exposer à différentes choses. Mais oui, j'en fais encore un peu.
C'est ça, parce qu'avec ça, ce que je trouve intéressant d'amener la lentille avec le sujet qu'on va parler, parce que, tu sais, on va quand même ramener ça au niveau aussi de l'inclusion, puis aussi de la neurodiversité dans la formation, comment est-ce que tout ça peut venir s'imbriquer, mais t'as la lunette au niveau de l'entrepreneur qui démarre, les plus petites entreprises en croissance, toi, Didac, qui prend de la croissance, fait que, tu sais, c'est, puis avec tes clients aussi, probablement, qui sont des plus grandes entreprises, fait qu'au niveau, justement, de ces différents types de grosseurs d'entreprises-là, comment est-ce qu'on les entreprises peuvent être mieux outillées pour offrir de la formation parce que justement, ce n'est plus un luxe, hein, comme plusieurs le savent, mais comme plusieurs peut-être se mettent la tête dans le sable un petit peu, pensant que ce n'est pas facile à faire et que ce n'est pas accessible selon la grosseur de ton entreprise.
Tout va démarrer de, je veux dire, la philosophie de la personne qui est en haut. Parce que on est dans un contexte d'affaires, cash is king. Donc, à partir de là, même si le bas de la pyramide, le milieu de la pyramide, le veulent, le demandent, le crient. Si la personne en haut n'a pas l'idéologie que tes ressources humaines et la formation, c'est un investissement et pas une dépense, on se bat à contre-courant. Donc, ça va être plate ce que je vais dire, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent être sauvées. T'en as qui vont rester dans le vieux schéma de pensée, de gestion, puis c'est correct. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de performer ou quoi que ce soit. À mon sens, ils ont une date de péremption sur leur entreprise s'ils maintiennent cette philosophie-là. Mais tout va démarrer de la volonté d'investir dans le développement de formation. À partir de là, par contre, ça s'influence. Évidemment, la formation, tu as, je vais dire, la philosophie plus holistique de on va développer nos gens et ils vont mieux, ils vont être plus heureux au travail, plus mobilisés, mieux performés. Sinon, tu as la vision et la lunette un petit peu plus froide et financière que tu peux te baser sur des indicateurs de performance pour démontrer que ta formation, c'est à toute fin pratique la même chose que mettre 5 000$ pour réparer une machine en métal juste pour qu'elle performe plus. Donc, évidemment, le point central pour moi des gens avec qui je vais travailler, c'est ceux qui ont le déclic de ce n'est pas un luxe, c'est nécessaire, et comprennent que c'est la bonne vieille image qu'on va dire à notre enfant, tu veux-tu 5$ aujourd'hui ou tu veux-tu 10$ demain? D'un matin, je demande ça à n'importe quel entrepreneur, ironiquement, ils vont tous me dire 10$ parce qu'ils comprennent. Par contre, lorsqu'on regarde d'un point de vue d'opération, c'est hyper incohérent parce que je te dirais que 8, j'ai pas les chiffres officiels, mais mettons, si tu me demandes instinctivement, là, 8 business sur 10 avec qui je vais parler vont commencer en me disant « Ah, ça fait longtemps qu'on y pense, là, mais on ne l'a pas fait encore. » OK, pourquoi? Parce qu'on a priorisé des éléments qui, certains seront des vraies urgences, certains seront des vraies priorités, mais plusieurs sont des distractions, je crois. Parce qu'on est trop dans le présent et on a donc bien de la misère à être proactif sur la planification et de la création des contenus, de la documentation du savoir de l'organisation, qui est un des gros enjeux. Et ensuite, le deuxième enjeu, c'est être proactif sur la planification du temps alloué à nos ressources pour consommer et s'améliorer avec ces pièces de contenu-là.
Oui, parce que quand même, ça demande d'avoir une vision à long terme. C'est d'autant plus important dans le contexte actuel où il y a beaucoup de mouvements de personnel parce qu'il faut garder le savoir de ces employés-là à l'interne. Il faut le documenter, il faut le transmettre. Mais ça demande de le voir à l'avance et non pas le jour où est-ce que cette personne-là s'en va, tu sais.
Exact, puis c'est de positionner la formation parce que trop souvent, on a... Tu sais, la formation, c'est un terme qui, à la limite, moi, j'essaie d'utiliser de moins en moins parce que toute personne a un référent négatif à la formation. On a tous déjà vécu une formation qui était pénible, qui nous a fait sentir qu'on perdait notre temps. Donc, c'est quand même difficile de créer un aspect, je vais dire, sexy avec la formation. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, je vais essayer de le positionner avec des termes d'opération, donc d'amélioration continue, entre autres, de standardisation des processus, qui, au final, sont tous supportés par de la formation. Mais ultimement, on utilise des termes qui se rapprochent de l'argent dans la business, donc qui se rapprochent d'une priorité et d'un impact. Fait que, c'est un petit peu comme ça qu'à date, je suis capable d'amener les gens à avoir ce déclic de « OK, ouais, en effet, maintenant, je mets moins en opposition, je vais dire, ressources humaines et opérations. Je suis capable de mieux voir comment il y a une vraie rentabilité derrière et que c'est pas juste, je vais dire, donner de la formation pour me donner bonne conscience à titre de gestionnaire. »
C'est ça, puis je me permets de faire un lien avec l'épisode quand Emmanuel Martin-Jean était venu, puis avec Nathalie Bertrand aussi, tu sais, quand on pense aussi au trauma scolaire que plusieurs personnes neurodivergentes peuvent avoir vécu. Quand tu rentres dans un cadre de formation d'entreprise, veux pas, ces traumas-là qui ont pu être vécus dans le milieu scolaire, académique, peuvent venir se répercuter dans la capacité de vouloir ou d'être en mesure de participer à la formation, des fois, au niveau des outils pour apprendre à apprendre. Je pense que ça devient super important quand on parle de développement des compétences, mais cette capacité-là d'apprendre à apprendre n'a peut-être pas été développée à cause de différentes problématiques qui ont été vécues. Puis, il y a beaucoup de calques au niveau du modèle académique qui est repris dans la façon de concevoir la formation d'entreprise, alors que le calque académique n'est pas toujours le bon, de un, puis de deux, n'est pas toujours la même approche à utiliser en entreprise, parce qu'on ne parle pas du même type de connaissances, du même type de compétences, du même niveau de contenu non plus.
Et des motivations non plus.
Non plus.
Un étudiant va se faire imposer un cursus scolaire académique standardisé sans comprendre pourquoi, parce que pour les 16 premières années de sa vie, il n'a aucune idée de ce qu'il veut faire dans la vie. Donc, tout le seul référent qu'il a, c'est « je vais m'asseoir dans une chaise, apprendre des choses que je ne sais pas pourquoi. » Alors qu'en entreprise, il faut donner du sens à la formation. Parce que si tu veux qu'il y ait une vraie rétention d'information, tu dois avoir un niveau d'engagement durant la formation et l'apprentissage. Et ce niveau d'engagement-là découle du sens que tu vas donner à la formation de « si tu restes mentalement disponible pendant ce que je vais t'enseigner, ta qualité de vie va s'améliorer, ta simplicité de travail va s'améliorer et ultimement, ton automotivation et ton sentiment de fulfillness va être bonifié aussi. Tu contribues, tu vas amplifier ton sentiment de contribution dans l'entreprise parce que tu vas mieux performer ta tâche avec moins de friction. Donc, on est vraiment dans deux schémas complètement différents. Dans un, que c'est « je te forme pour que tu découvres qu'est-ce que tu vas vouloir faire plus tard », alors que « professionnel », c'est un schéma de « je te forme pour amplifier ce que tu veux faire », qui est très différent.
Ça n'a pas le choix d'être très lié à ce que l'entreprise fait, à ce que l'entreprise veut faire aussi dans le futur. Mm-hmm. Tu n'as pas le choix de découler ça pour que ce soit très concret, finalement.
Oui, et de communiquer l'alignement, parce que tu sais, un employé va rester à long terme dans l'entreprise s'il est capable de se projeter. Donc, la notion de développement d'un employé amène à une entreprise à être apte à lui permettre de fournir l'environnement, les outils pour être capable de lui faire comprendre la formation que tu fais là aujourd'hui. Bien, dans ton plan de développement, dans ton chemin de carrière, voici où est-ce que l'entreprise peut te mener. Peut-être que ce ne sera pas la destination finale. De façon très humble, moi, j'essaie de développer mes gens pour qu'ils soient dans une meilleure position d'être acceptés dans leur prochain emploi. Je ne prends jamais pour acquis que mes gens vont travailler toute leur vie pour moi, mais si je peux jouer mon rôle de faciliter leur prochaine embauche en les formant sur des choses qui sont alignées avec mes besoins actuels à moi, tout le monde y gagne. Parce que cette personne-là, elle performe mieux aujourd'hui. Et elle est plus motivée à se former et consommer parce qu'elle est capable de voir le gain à court terme dans mon entreprise et aussi le gain que ça lui donne dans sa vision long terme de ce qu'elle veut faire, qui sera peut-être pas chez moi, puis c'est correct. Mais ça, c'est la responsabilité de l'entrepreneur et de l'entreprise en haut de le prendre sur ses épaules et pas juste la former dans qu'est-ce qui est bénéfique pour moi pur sans considérer les intérêts et les ambitions, les motivations de mon employé.
C'est ça. Puis en ce moment, moi, j'ai une connexion Bluetooth avec Fran qui n'est pas avec nous en ce moment. Puis je sais que quand elle va écouter, elle va dire « Ah, mon Dieu, mais c'est comme la théorie de Vroom. » Puis que là, j'avais envie de le plugger parce que c'est tellement intrinsèquement lié avec tout ce que tu dis. Puis je pense qu'on en a
j'ai aucune idée de ce que c'est. Peux-tu m'éduquer?
Ben oui, c'est une multiplication. Puis une multiplication, on s'entend que si tu as trois éléments que tu multiplies, s'il y en a un des trois qui est à zéro, t'as bien beau avoir les deux autres dans le tapis, tu vas arriver à zéro.
J'adore.
Pareil.
J'adore.
Donc, la théorie de Vroom, en fait, c'est que tu as besoin d'avoir trois éléments pour atteindre la motivation, qui est la balance. Donc, est-ce que ça vaut la peine? L'instrumentalité, qu'est-ce que j'y gagne? Puis l'expectation, est-ce que je suis capable? Fait qu'automatiquement, si tu as les trois de dire ça vaut la peine, le « what's in it for me », qu'est-ce que j'y gagne? Encore une fois, le « what's in it for me » de qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme résultante au bout de ça, puis est-ce que je suis capable? Puis dans le « est-ce que je suis capable », je pense que c'est là aussi au niveau, quand on parle de personnes qui ont peut-être vécu des traumas au niveau du système académique, tu sais, peut-être qu'ils se sentent qu'ils sont pas capables de toute façon, puis automatiquement, cette partie de l'équation-là vient de tomber sans avoir eu la chance de donner... place à des exemples positifs pour bâtir, rebâtir peut-être son estime de soi face à son apprentissage puis à sa capacité d'apprendre à apprendre.
Mm-hmm. Puis un élément que, ce que tu viens de dire, j'avais jamais entendu ça et j'adore ça et j'ai l'impression que ça va être très connu ou adopté par des personnes en ressources humaines. Par contre, admettons, je reviens là-dessus, l'objectif pour ressources humaines, c'est de bien faire le pitch à son directeur financier, quoi que ce soit. Le principe que tu viens d'expliquer, c'est le même principe opposé, je vais dire comme ça. Okay. Je pense que c'est Gino Wickman qui a fait ça, du GWH. Est-ce que tes gens, do they get it? Do they want it? Do they know how to do it? Donc, le premier niveau, est-ce qu'ils comprennent ce qui est attendu de eux?
Mm-hmm.
Est-ce qu'ensuite, do they want it? Est-ce qu'ils ont le désir profond? Et c'est là que cet élément-là est directement relié avec l'intérêt de développer et de former tes gens, qui ultimement se traduit ensuite avec le dernier, do they know how to do it? Est-ce qu'ils savent comment l'exécuter? Qui est juste ensuite le résultat d'une saine formation. Donc, à toute fin pratique, ton trois niveaux, c'est le même concept que le mien, sauf toi dans le langage RH, moi le langage opération. Donc, messieurs, mesdames, RH, essayez de regarder le concept. Comme je dis, je pense que c'est Gino Wickman, GWH, get it, want it, know how. Donc, en vous appropriant les termes d'opération, vous allez être mieux placé pour vendre vos besoins qui ultimement vont découler ensuite sur vos humains dans l'entreprise.
Ben oui, puis en tout cas, toute fin pratique, on va quand même mettre tous ces liens-là aussi dans le texte de l'épisode. Fait que stressez pas à prendre tout ça en note pendant que vous écoutez.
Oui, mais le fait qu'il y ait des gens qui aient des traumas comme ça de l'école, puis que ce soit pas juste des personnes neurodivergentes, bien sûr, là, il y a plein de gens qui n'aiment pas l'école pour de multiples raisons et qui sont traumatisés de la chose. Mais ça implique qu'il y ait plusieurs formes de formation, que ce ne soit pas juste monolithique et qu'il y ait plusieurs types d'apprentissage. Puis c'est un peu ça que vous essayez de faire, dans le fond, d'avoir, de la classe virtuelle ou de la classe en présentiel, mais pas seulement. Il y a d'autres façons de l'avoir.
Non, il y a plein de façons de décliner l'apprentissage. Puis tu sais, très souvent, un des... dans les deux dernières années, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on passe de tout à son contraire. On passe des entreprises qui donnaient de la formation exclusivement en présentiel, en compagnonnage, à se répéter continuellement, puis s'il n'y a pas de valeur ajoutée qui est créée nécessairement, à 100% en ligne. Ce qui est, à mon sens, tout aussi une erreur, parce qu'on enlève le côté humain. Les personnes ont des besoins très spécifiques, intrinsèques à leurs conditions, à leurs croyances, à où est-ce qu'ils viennent, à leur biais de qu'est-ce qu'ils ont peut-être déjà appris dans le passé. Donc, on veut trouver l'espèce de juste milieu entre qu'est-ce qu'on est capable de documenter, numériser, optimiser, centraliser pour permettre à la personne de développer une autonomie sur les principes globaux, les concepts génériques. Puis le temps qu'on sauve avec ça, on vient juste de multiplier de façon exponentielle le temps disponible aux gestionnaires en accompagnement personnalisé. Et de là, des personnes, tu sais, ce temps-là, il est hyper pertinent et important pour les personnes avec des besoins particuliers, justement, avec des profils plus atypiques, dans l'optique où ce que on avait Daniel qui est passé récemment, puis comme Daniel qui est diagnostiqué sur un spectre de l'autisme, puis pour moi, ça a été super intéressant de, à premier niveau, juste valider notre approche actuelle, est-ce qu'elle fonctionne bien en général? Parce que, tu sais, je veux dire, c'était la première personne qu'on avait dans l'entreprise avec un diagnostic de spectre de l'autisme. Donc, on savait qu'il allait vraiment tester nos processus en place par son besoin de clarté sans aucune zone grise, on va le dire comme ça. Mm-hmm. Puis, Daniel est arrivé en disant, pour vrai, c'est la meilleure expérience que j'ai jamais eue, c'est super clair. Parfait. Par contre, c'est pas parce que c'est super clair qu'il n'y a pas des besoins d'accompagnement supplémentaire pour encore plus aller asseoir, je vais dire, l'apprentissage et clarifier. Donc, plutôt que nous répéter à chaque fois qu'un employé rentre dans la business, puis admettons que ça prend, je ne sais pas moi, 10-12 heures intégrer un employé sur l'aspect, je vais dire, générique, pas le rôle technique, mais juste chez qui tu travailles, qu'est-ce qui est attendu, quels sont les outils avec lesquels tu vas travailler, ben maintenant, ça prend peut-être 3 heures plutôt que 12 heures. Sauf qu'à partir de là, justement, on est dans une position où on a du temps de lousse. La beauté, c'est qu'on décide qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, j'ai pris du temps avec Daniel, là, comme, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est un angle mort pour moi que je ne sais peut-être pas? Puis ça, ultimement, c'est un continuum de formation qu'on fait, nous, à l'intérieur. À chaque fois qu'on va intégrer une personne, on veut mettre la personne dans une position de petite victoire le plus rapidement possible. Pour augmenter nos chances qu'elle reste après une journée, 7 jours, 30 jours, 90 jours, t'sais, règle générale, tu as 20% de tes nouvelles recrues qui vont coûter en bas de 45%. Une business de 10 employés, 12 employés, c'est pas des gros chiffres. Une business de 200 employés avec un taux de roulement de 26%, c'est quand même beaucoup de salaire que tu vas mettre dans le vide. Donc, d'emmener un petit approche de, je vais dire justement, ce que j'appelle le continuum de formation. Certains appellent ça le infinity loop. La personne, dès qu'elle rentre, tu lui mets ça clair. Pour 3 mois, tu es une dépense. Puis c'est parfait. Je n'ai pas d'attente de rentabilité. La seule mission que j'ai pour toi, c'est qu'à chaque étape que je te fais passer, tu me mentionnes qu'est-ce qui est ton meilleur takeaway, qu'est-ce que tu as le plus apprécié, qu'est-ce qui a été la plus grosse faiblesse et qu'est-ce que j'aurais pu bonifier ou ajouter pour rendre ça encore plus facile et plus clair. Donc, ta personne, elle se forme et dès le jour 1, elle a le sentiment de contribuer à l'entreprise et en même temps, tu es en train d'inculquer une culture d'apprentissage. Histoire qu'une fois qu'elle est intégrée, elle a déjà le pattern mental de « si je vois quelque chose qui me manque ou un angle mort, je vais lever la main pour le dire parce que c'est encouragé, c'est accepté. » Et ultimement, il y a des ressources pour bonifier ces trous-là. Donc, ce n'est plus ma responsabilité à titre de gestionnaire de maintenir la connaissance de l'entreprise. Chaque personne qui consomme une pièce de contenu, de formation, c'est sa responsabilité de la suivre pour apprendre, mais il y a la co-responsabilité de s'assurer que c'était à jour et qu'il ne manquait rien.
Oui, mais tu l'as dit, co-responsabilité, il faut que l'employeur soit ouvert et mette les ressources pour que ça change.
Exactement, exact.
C'est ça, puis dans ce que tu dis, il y a deux choses très importantes que je tiens à souligner, c'est le taux de roulement que tu mentionnes, en fait, et le taux de roulement moyen au Québec. Là, on parle d'entre 24 et 25 selon le Conseil du patronat du Québec, fait que c'est en dedans d'un an, tu as peut-être encore des employés qui risquent de partir. Fait que ça, quand tu parles d'automatiser puis de rendre ça accessible, tu sais, quand on parle de petites entreprises ou de gestionnaires ou de chefs d'équipe, quand on parle de motivation au travail, si ton taux de roulement avoisine la moyenne québécoise, puis que tu es tout le temps en train de reformer, mais c'est un peu comme je reviens avec ce que Charles-Antoine il disait, mais c'est un peu comme le supplice de la goutte, tu sais. Mm-hmm. Tes premiers que tu vas former, OK, ça va, mais à un moment donné, tu es comme écœuré de répéter la même affaire. Fait que, en plus de ne pas avoir d'automatisation de tes processus d'acquis d'intégration au niveau de ta formation, au niveau de tes systèmes, etc., ben, tu donnes un supplice à tous tes gestionnaires qui sont obligés de toujours répéter. Donc, eux autres risquent de s'écœurer et de partir aussi, de venir nourrir ton tout le monde. En tout cas, bref, tout est dans tout, mais ça me faisait penser à ça parce que, ultimement, tu veux que les personnes qui ont une valeur ajoutée pour ton entreprise, donc tes chefs d'équipe, tes gestionnaires, les personnes qui détiennent la connaissance, deviennent des personnes qui sont...
des super coachs.
Oui, puis qui soient essentielles et non indispensables à ton entreprise. Tu veux pas que si elles partent, tout d'un coup, tout s'écroule parce que c'est elles qui formaient tous les nouveaux. Tu veux que si elles partent, tu perds une grosse valeur ajoutée de ton entreprise, mais que tu perds pas un morceau opérationnel, mais que tu perds un morceau de valeur.
Tu perds un facilitateur. Ouais. Moi, c'est le même que je vais le positionner. Ton gestionnaire, il est pas là pour prendre les gens par la main à chaque fois. Il est là pour faciliter leur développement à partir des outils qu'ils ont en place. Puis je vais bonifier ce que tu viens de mentionner. Non seulement c'est le supplice de la goutte pour tes gestionnaires, ça fait que, à titre de gestionnaire ou entrepreneur, tu viens de t'auto-saboter parce que tu ne prendras, t'atteindras pas tes cibles de performance parce que ton monde à l'entrée n'ont pas eu une équité de formation. Parce que tu ne leur as pas donné les outils pour justement se former puis avoir toute la même qualité de message. Comme tu l'as mentionné, mettons, tes premiers tes premières embauches, là, tu vas prendre le temps, tu vas les chouchouter parce que tu veux. Quand tu es rendu à la 20e personne en 3 mois, tu dis la même affaire, je te garantis que c'est un apprentissage qui va être garoché. Cette personne-là va être sous-performante, non pas par sa faute, mais à cause de la façon qu'on l'a pris en charge au début. Sa sous-performance va générer une frustration au niveau du gestionnaire et potentiellement que tu vas mettre dehors cette personne-là parce qu'elle sous-performe, alors que c'est 100% de ta faute à titre de gestionnaire parce que tu ne lui as pas donné les assets qu'elle avait besoin pour bien performer ou la clarté des attentes avec elle dès le jour 1. Donc, on crée notre calvaire.
Exactement. J'ai envie de dire « Amen ». Mais... Mais tu sais, c'est qu'après ça aussi, tu sais, dans justement, là, quand tu es en mode de bon, ben là, il faut que je t'intègre, tout ça, tu stresses ta ressource, tu. Ben, oh, j'ai ça, dire ça, pourquoi j'ai ça? Tu stresses ton nouveau collaborateur, ton nouvel employé, tu viens comme, tu sais, juste lui faire une espèce de diarrhée verbale de tout ce qu'il a besoin d'apprendre dans son travail. Fait que là, lui, il stresse à vouloir le retenir, vu qu'il est stressé, il retient pas l'information nécessairement. Fait que même au niveau du transfert de la personne, puis un transfert dans la tâche, on a déjà un déficit qui vient de se créer juste par ça au niveau du processus d'accueil d'intégration.
Un déficit de presque 100%, là.
Oui.
C'est sûr qu'il va aller voir tes meilleurs employés après. Là, tu fais juste mettre ton employé dans une position très inconfortable de « je le sais qu'il me l'a dit, mais je m'en souviens pas. » Et de là, ta nouvelle ressource prend otage ton meilleur employé. Donc, ça te coûte 2 fois plus cher dans ta business. Et ça fait que tu es en train, encore une fois, faire le même élément que de supplice de la goutte de tes gestionnaires à ton meilleur employé, parce que ton meilleur employé, c'est le meilleur parce qu'il aime ça, possiblement. Oui. Laisse-le travailler.
C'est ça. Puis après ça aussi, peut-être le fait que, justement, tu as des faux plis qui peuvent se prendre à travers les différentes personnes quand la formation n'est pas égale. Puis là, tu as du transfert de faux plis qui se fait. Puis après ça, tu as un gap d'efficacité au niveau de tout ça qui peuvent s'appuyer. Puis là, on pense, par exemple, à quelqu'un qui a des besoins plus spécifiques au niveau de l'apprentissage. Bien, tu sais, justement, là, si c'est pas égal d'une fois à l'autre, puis tu as besoin d'avoir des informations qui sont claires et directes, puis là, tu vois qu'il y a une disparité dans les messages que tu reçois quand tu essaies de trouver toi-même ta formation à travers les personnes, bien, tu augmentes ton niveau de frustration aussi par rapport à ces éléments-là. Bref, ça me passionne, ça paraît-tu? Excusez.
Oui, puis tu sais, t'as la notion de... Les gens qui arrivent avec un profil particulier le savent. C'est pas le premier emploi dans lequel ils arrivent, quoi que ce soit. C'est des gens qui connaissent leurs conditions, savent c'est quoi les paramètres. Mais tu sais, ils ont une hyper belle volonté.
Puis encore là, pas
partir
toujours.
De là, c'est des... T'sais? Comment?
Mais encore là, pas toujours, parce que les diagnostics adultes sont très fréquents. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. T'sais, on parle pas de la majorité qui arrive en ce moment dans les entreprises à l'âge adulte. Puis on peut pas avoir les stats, parce qu'il y en a juste pas. T'sais.
Mais ceux qui sont pas diagnostiqués, ça veut dire qu'ils se sont quand même brûlés à des places avant.
Oui.
Donc,
mais de savoir pourquoi, ils sauront peut-être pas nécessairement exactement pourquoi.
T'sais. Pas de savoir pourquoi, mais sans savoir... Savoir pourquoi va donner la clarté à la personne, mais ne changera pas les outils que tu as besoin.
Exactement.
Donc, une personne qui arrive, qui soit justement comme un profil particulier, ou juste une personne comme moi qui n'était pas nécessairement bonne à l'école, mais qui arrive dans un contexte où je joins une entreprise parce que j'aime la vibe, j'aime le produit, j'aime la culture, je veux contribuer, je vais arriver plein de volonté. Normalement, si tu embauches des gens et il n'y a pas une lune de miel minimale de une semaine, engage-la pas, là. Il n'y a clairement pas un alignement. Mais c'est de justement surfer un peu sur cette lune de miel-là. Mais cette personne-là, elle veut être autonome. Elle ne veut pas se sentir comme un boulet.
Non.
Donc, c'est une personne qui, très souvent, fournit lui les ressources et elle a déjà, par ses expériences passées ou quoi que ce soit, le réflexe de « bon, mais je sais que je n'ai pas de mémoire. Fait que je sais que j'ai un besoin particulier de « si tu me le mets écrit, je ne dérangerai personne. Je vais me bâtir mon code de survie, je vais me bâtir mon toolkit. » Pour être capable de développer, selon mes besoins particuliers, mon autonomie. Solène?
Ben, en fait, c'est qu'il faut multiplier les sources de connaissances, finalement. Moi, je sais que si tu fais juste me le dire, je vais l'oublier. Mais j'ai besoin que tu me l'expliques pour pouvoir te challenger. Mais après ça, j'ai besoin que ce soit par écrit, parce que sinon, je vais l'oublier. Puis ça ne marchera juste pas, parce que j'aurais pas pensé le noter, ou j'aurais noté, mais j'aurais noté à moitié, parce que c'était clair à ce moment-là, tu sais.
C'est la différence entre une procédure puis une formation. C'est ce que tu viens de dire.
Exact.
Fais-moi pas le écrit de comment le faire. On va en parler. Je vais te fournir le pourquoi on le fait. Je vais donner le sens. Histoire que quand tu vas aller tomber dans le comment, ça va être beaucoup plus facile à l'absorber pour toi parce que, ah oui, c'est vrai, c'est à cause de ça. Ah oui, c'est vrai, c'est à cause de ça. L'exécution des tâches, le procédural, c'est juste un véhicule pour atteindre un résultat. Le pourquoi, ça définit pourquoi on a défini que c'est justement cet objectif-là qu'on veut atteindre et pas un autre. Donc, t'amplifies la motivation profonde individuelle de la personne de bâtir son autonomie parce qu'elle a adhéré au sens, elle a adhéré à l'objectif en amont et non pas juste j'adhère à mettre ça dans la boîte-là et de la tâche-là.
Oui, dans le fond, c'est de ne pas être seulement exécutant.
Exactement.
C'est ça, ça donne un sens d'autonomie. Ça donne un sens d'autonomie dans ton travail. Puis ça me fait juste penser, ça me fait rire quand tu as dit une demi-heure parce que c'est exactement le mot qui me donne en tête. Je l'utilise souvent. J'avais déjà utilisé dans une campagne par le passé, tu sais, cette lune de miel-là que tu veux qui dure le plus longtemps possible, finalement, qui ne se termine pas. Puis, tu sais, dernièrement, j'avais vu un article qui avait passé, puis écoute, c'est elle qui était dans l'article, je peux bien la nommer. C'était Isabelle Huot, qui est nutritionniste, là, qui a une compagnie, puis elle dit, tu sais, les employés, on est dans une phase d'employés roi à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Elle dit, j'engage quelqu'un, elle est partie tout de suite, elle m'a pas donné, à partir de 3 semaines, tu sais, la grosse affaire, Journal de Québec, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, mais tu sais, est-ce que les gens se posent des questions au niveau justement de cette lune de miel-là, puis de comment est-ce qu'ils sont accueillis? Fait que, tu sais, quand tu dis qu'on pense pas à l'investissement et que tu es tout le temps en mode urgence, ben c'est que ça crée après ça des frustrations côté des employeurs qui disent Ah, c'est des employés rois maintenant. T'sais.
Mais il y en a, t'as un peu de.
Il y en a. Il y a de tout. Ça prend toujours de monde faire un monde, on s'entend. Ça, je suis d'accord.
Je suis pas à l'aise à discréditer le concept d'employé roi parce qu'il y en a. L'employeur a une responsabilité de fournir un environnement, un climat et, je vais dire, un système de support à l'employé dès qu'il arrive pour favoriser les conditions de succès pour qu'il reste et s'accomplisse dans le travail. Mais ça, tu peux le faire s'il se rend la journée 1. À partir de là, tu sais, comme il y a plusieurs entreprises qui présentement sont à essayer de voir comment est-ce qu'il reste pertinent avec des stratégies entre la journée que je te confirme que je t'embauche et ta première journée que tu viens. Parce que déjà, dans cet élément-là, il y a du bris de promesse de, tu sais, c'est la base, offre et la demande. Oui, en effet, présentement, les employés ont plus de leverage. Le problème, par contre, c'est que les employés ont moins d'éducation financière et business et ne comprennent pas que chaque personne qui a le pattern d'un employé roi est en train de scraper son nom pour le moyen et le long terme. La position, je vais dire, préférentielle de l'employé présentement, c'est contextuel. Ce n'est pas soutenable à long terme. Donc, tu brûles beaucoup de ponts présentement si tu joues la carte un peu arrogante de « c'est moi qui ai le gros bout du bâton, voici comment que je veux, sinon je ne viens pas chez vous ». En effet, présentement, tu ne seras pas capable, mais l'entrepreneuriat au Québec, ça reste un petit monde. Fait que, je trouve ça dommage, d'un côté, d'avoir des entreprises, oui, en effet, je vais dire, beurrer la tranche bien épaisse avec le beurre qu'est le terme employé roi, mais à l'inverse, de voir autant de personnes essayer d'être opportunistes présentement face aux employeurs qui, théoriquement, ton employeur, il veut que tu restes longtemps, là. Fait que de négocier de façon trop agressive à titre d'employé à cause du contexte court terme, alors que peut-être qu'en effet, laisse 5 000$ sur la table aujourd'hui que tu aurais pu avoir ailleurs pour rentrer dans une business qui va s'occuper bien de toi, possiblement pendant 10 ans. C'est, dans ma tête, on revient à 5$ aujourd'hui, 10$ demain. Là. Donc, il y a une perte un peu de perspective. Puis je trouve qu'on rentre dans une business à ce moment-là dans une mauvaise dynamique avec des mauvaises motivations. Donc, le climat pour avoir des conditions de succès dans la relation employé-employeur n'est pas là non plus.
Non, ouais, c'est ça. C'est un partenariat. Hein? On est une équipe. Donc, c'est important d'être...
Les deux, on prend un pari. Il faut que ce soit win-win pour les deux. Il ne faut pas que l'employé ait l'impression de mettre le genou à terre, mais l'employeur non plus.
Oui, exact. C'est un rôle où est-ce que chacun a ses avantages et ses bénéfices. Puis ça va être pareil dans la formation. T'sais. On va... Tu vas former tes employés pour que ça fonctionne bien, mais après ça, il faut que l'employé aussi ait ses avantages à être formé. Tu sais.
Exactement. Puis de la formation, ça reste aussi un pari. Tu vois, les éléments de formation qui sont essentiels, tes piliers pour qu'une personne aille les standards minimales pour opérer son travail. À partir de là, il y a quand même des budgets qui sont pour de la formation plus avancée ou ponctuelle. Puis c'est sûr que, je veux dire, une entreprise va miser sur les employés qui démontrent avoir un potentiel de rester à long terme. Donc, on en revient avec avoir la bonne attitude, démontrer que tu, en tant qu'employé, laisser savoir à ton employeur que tu te vois à long terme aussi. Puis, tu as une notion un peu de fidélisation, loyauté, reconnaissance. Un employé qui arrive avec un profil atypique, puis que c'est communiqué dès le départ, puis que c'est entendu, c'est un pari des deux côtés. L'employeur doit faire son bout pour fournir plus de ressources, plus d'efforts, plus d'encadrement, plus d'accommodation au début pour donner l'air d'aller à l'employé pour bâtir son autonomie. Mais à l'inverse, il faut qu'il y ait un peu un retour du balancier aussi, du respect de comme, OK, mon t'sais, l'employeur a pris un pari sur moi, puis pas juste partir parce que j'ai 5 000 $ ailleurs ou quoi que ce soit. Parce que ça... Mais en même temps, t'sais, vous êtes plus experte que moi là-dedans. Suis-je dans l'erreur de penser que justement les personnes avec un profil plus neuroatypique ont une plus grosse crainte ou sensibilité à la gestion du changement?
Oui, il y en a que oui, il y en a que non. Mais oui, la gestion du changement peut être difficile. C'est sûr qu'on a beaucoup de traumatismes liés à des employeurs qui ont abusé. Mm-hmm. C'est sûr que ça peut, ou que ça n'a pas marché, ou qu'on a fait des efforts et que ça fonctionnait juste pas. Mais je pense que c'est, si l'employeur démontre sa confiance, puis met des efforts, mais ça donne envie d'en faire aussi, tu sais, puis de mettre de l'eau dans notre vin, puis de, tu sais, de pas se brûler là-dedans d'un côté comme de l'autre.
C'est peut-être un biais que j'ai de penser que, justement, comme une personne avec un profil neuroatypique, si tu l'occupes bien, si tu t'en occupes bien, puis tu l'outilles, si tu fais bien ton travail, les perspectives qu'elle reste plus longtemps dans ton entreprise qu'un employé moyen sont favorables.
Oui, effectivement, parce que c'est plus rare, puis parce que vu que c'est plus rare, on va rester là où est-ce que ça fonctionne.
Mais ça, je vois que tu te mords les lèvres de vouloir...
mais oui, en fait, tu sais, il y a certaines statistiques qui disent qu'au niveau de la loyauté, en fait, une fois qu'une personne qui a un profil neuroatypique qui se sent accueillie et supportée va avoir un plus grand sentiment de loyauté lorsque c'est bien fait. Mais t'sais, au-delà de ça, je pense que le dénominateur commun dans tout ça, c'est au niveau de la communication. Puis, tu sais, si on revient au fait que ton processus d'accueil et d'intégration, il est béton, il est de qualité, puis que, tu sais, c'est un argument de vente quand tu embauches quelqu'un, tu sais, puis est-ce que c'est communiqué, est-ce que c'est dit, tu sais, voici comment est-ce que notre culture d'entreprise allait, puis voici comment quand tu vas arriver, là, on va s'occuper de toi. Voici par où tu vas passer. Tu sais, tu lui donnes cette lunette-là vers ton entreprise de dire, OK, tu sais, quand j'arrive, je ne suis pas garochée sur le coin d'une table à essayer de me débrouiller. J'arrive dans une entreprise où mon processus d'accueil d'intégration, il est bien ficelé, où est-ce que je vais pouvoir me sentir compétent et autonome rapidement. Je vais avoir tout ce dont j'ai besoin. Il y a des meilleures chances, à mon avis, très humblement, mais aussi selon ce que j'ai vu par expérience, que ta personne, elle n'aille pas magasiner entre le moment où tu l'embauches, puis le jour où elle commence. Parce qu'elle sait à quoi s'attendre, elle s'est propulsée, elle s'est projetée dans son nouvel emploi avec beaucoup plus de confiance.
Ça fait définitivement une différence, mais moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise de, je vais dire, en faire un phare de communication, parce que c'est comme n'importe quel business va dire qu'elle a un bon service à la clientèle. Tu vas juste le savoir la journée que tu l'expérimentes. Mm-hmm. Donc, j'ai beau, en amont, dans mon marketing RH, qui est un terme que je ne suis plus capable d'entendre parler, soyez juste intègre, puis... Ayez une culture saine, votre marketing RH va se faire de lui-même. Mm-hmm. Marketing RH, c'est pas payer 5 000 $ d'une campagne marketing pour faire des belles photos pour dire qu'on est bon. Théoriquement, laisse tes employés, tes ambassadeurs, puis tu n'auras pas besoin de mettre une maudite scène si tu t'en occupes pour vrai. Donc, de dire que chez nous, l'accueil intégration est béton, puis que justement, c'est comme. Les gens, malheureusement, comme vous l'avez mentionné, se sont trop fait brûler par le passé. Fait, j'ai l'impression que de le dire, c'est impossible à prouver de façon qualitative, quantitative, avant de l'essayer. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la notion de cohérence dans chacune des actions qu'on prend avec notre monde et ceux qui ont un profil spécifique et nos employés, je veux dire, normaux, qui, dans le contexte d'aujourd'hui, sont quasiment une autre gang à part, mais ultimement, le rayonnement du bonheur de tes employés avec les actions que tu fais au quotidien, est pour moi une meilleure preuve de validation que n'importe quoi que tu peux mettre en amont et essayer de communiquer intentionnellement dans ton marketing ou quoi que ce soit. Donc, puis il y a l'élément de surprise aussi. Tu sais, moi, je pense que ça fait une grosse différence. Si je te le dis en amont, je pense que je dilue l'élément ou le degré d'appréciation. Parce que ça fait que je te mets des attentes avant même que tu arrives, donc je suis dans une position que je peux juste under-deliver. Si tu t'occupes bien de ton brand, de ton équipe, le mot va se passer, il ne sera pas tu sais, ce sera pas ton flagship de comme, ah, Didac, c'est la business où ce que tu rentres puis les employés sont rois. Non, c'est comme, ils s'occupent bien le monde. Moi, si je suis dans une position où que, tant que le monde, il s'occupe, tu sais, que la réputation, c'est ils s'occupent bien de leur monde, sans plus, je suis à l'aise parce que je sais que quand ils rentrent, ils vont faire, non, Chris, ils s'occupent vraiment plus que bien de leur monde. Et de là, je suis dans une position favorable sur la première impression que je laisse. C'est dangereux pour moi, je trouve, de mettre des attentes parce qu'à partir de là, t'as plus, tu trouves des positions à décevoir alors que j'aime mieux, tu sais, le classique de « under promise, over deliver », c'est mon approche aussi avec mon expérience employée.
Mm-hmm. Oui, tu m'as déjà dit que tu voulais garder le rôle du chevalier sur son cheval blanc qui vient aider la personne. Mais je suis assez d'accord, en fait, que c'est d'abord les actions qui vont parler pour toi. Plutôt que de le dire, j'aime bien le fait que ce soit une marque employeur, en fait, qui soit plus organique, puis qui soit parlée par les employés eux-mêmes, puis que ce soit ta réputation. T'sais, par exemple, vous avez un blog, donc ça transparaît dans votre blog, ça transparaît dans plusieurs de vos...
Mais ça transparaît dans chacune des actions, mais comme moi, le marketing RH, les éléments de « Hey, viens, on va travailler sur ta marque employeur », ça ne me rentre pas dans la tête, là. Je suis comme, à quel point ça veut dire qu'on est en train de rentrer un carré dans un triangle, là? Ouais. C'est comme, ça devrait être une extension de toi, là. Puis ça devrait se faire de façon organique, là. Oui, tu peux structurer, puis tu peux bonifier des petits projets, puis je comprends. Mais de dire que tu as besoin d'un task force pour venir redéfinir ta marque employeur, puis toi, tu es comme, tu sais, t'en as une. Si tu penses que t'as pas de culture, que t'as pas de marque employeur, t'en as une, t'en es juste pas conscient. Mais à partir de là, de dire qu'on fait des initiatives de communication, puis tout... En même temps, je veux dire, je parle là de ma réalité. Ma réalité, c'est une business de moins de 15 employés à 200 employés, parce que tu as besoin de faire des embauches. Je comprends, il faut que tu sois plus structuré aussi, là.
Oui, mais tu sais, le marque employeur, ça part d'abord de ce qui se passe réellement. Tu sais, quand on va faire un processus de marque employeur, puis là, je sens que si on va dans cette direction-là, on va capoter les deux, on en fait. Mais tu sais, dans le fond, ça va d'abord partir de ce que les employés disent, puis ensuite d'harmoniser ça avec ce que la direction dit, puis ça va être d'arrimer les deux, tu sais. Fait que c'est de rétablir la communication, je pense.
Oui, bien, j'amènerais juste un bémol, tu sais, quand j'ai dit communication, est-ce que j'irais faire une campagne marketing et dire « Hey, voici notre processus avec une intégration? » Non. Mais dans, par exemple, la façon dont tu vas faire tes entrevues avec des futurs employés, des prospects, bien, l'entrevue se fait dans les deux sens. Hein. Fait qu'il faut quand même que tu vendes ta salade comme employeur de dire « Bien, hey, je pense qu'il y a un fait, tu sais, by the way, quand tu viens chez nous, tu sais, voici grosso modo comment ça va se passer, comment tu peux t'imaginer ça, tu sais, j'irais pas mettre ça sur des billboards, là. Fait que c'était parfait. Juste le bémol que j'ai apporté, parce que communication, il y a plusieurs façons de communiquer, puis, tu sais, pour moi, au niveau de la proposition de valeur à l'employé, cette communication-là se passe à différentes étapes au niveau du processus de recrutement, parce que tu veux justement que ton image de marque employeur, elle vienne se... teinter chacune de ces étapes-là, puis tu veux qu'elle vienne teinter après ça ton processus d'intégration, puis qu'elle vienne teinter tous tes processus. Fait que, puis c'est un peu comme la formation, c'est que oui, le terme est un peu, tu sais, brûlé slash galvaudé à certains égards, mais le but, c'est pas justement de juste aller sortir des campagnes de marketing pour les sortir, puis que les bottines suivent pas les babines, c'est d'aller faire le travail de fond. Puis pour faire le travail de fond, ben ça prend des fois juste des mots pour que les gestionnaires qui connaissent rien là-dedans se disent « Ah, il y a cette chose-là, puis peut-être que ça m'aiderait. » Puis après ça, quand tu as les compétences puis l'expertise pour passer en arrière, puis tu lèves toutes les flags des choses qui ne fonctionnent pas au niveau de l'approche, de la culture, des processus, puis là, tu fais un travail de fond, tu sais. Fait que c'est comme le bémol que j'avais envie d'apporter.
bémol qui est pertinent, en effet. Ça change mon rant un peu, là.
Fait que là, on a parlé beaucoup du processus d'acquis d'intégration. On a nommé au niveau de l'autonomie, au niveau justement de cette capacité à se sentir compétent rapidement puis pas se sentir comme un boulet. Puis ça revient à un des sujets que je voulais qu'on couvre puis qui revient justement au niveau de la démocratisation de la formation dans l'entreprise, t'sais, avec justement des processus de formation qui sont bien définis dans l'organisation. Mais après ça, t'as beau avoir ces processus de développement, des compétences, d'apprentissage, etc., qui est-ce qui a accès à cette information-là? Comment est-ce que tu peux l'utiliser pour, toi, gagner en autonomie, gagner en compétences? Et souvent, on va voir qu'on va créer des parcours pour les chefs d'équipe, créer des parcours pour les gestionnaires. On va avoir une espèce d'élitisme au sein de l'entreprise par rapport à la formation, alors que le fait d'avoir accès à des bases de connaissances, qui sont démocratisées permettraient justement à des personnes de croître à leur rythme en background, puis quand ça vient le temps de croître dans l'entreprise, se sentent déjà aptes et à l'aise de le faire. Fait que j'aurais aimé ça parler avec toi justement au niveau de, tu sais, de la culture de l'apprentissage dans l'organisation, de l'accès à la formation de façon plus démocratisée. Comment toi, tu vois ça aussi?
Il y a différentes dimensions un peu à cet élément-là de culture d'apprentissage, puis évidemment, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, tu sais, un des premiers défis que je vais voir avec nos clients, c'est de déterminer on commence par quoi, parce que tout est pertinent. Donc, tu as le premier volet, mettons, comme tu l'as mentionné, qui est le plus classique, de dire un chemin de développement. Donc, on va vouloir faire un parcours du développement des gestionnaires, entre autres. Donc, ça, c'est pour amener une personne dans un événement de vie, de business que je vais appeler. Là, on a décidé qu'on misait pour elle. Tu es dans un contexte de promotion, donc de transition vers un autre rôle. Là, on fait un chemin standardisé pour nous permettre de, justement, encore une fois, réduire un peu la dépendance avec des personnes, bâtir l'autonomie, puis s'assurer que les gens sont formés. Mais c'est limité au niveau de l'impact que ça a dans une business parce que tu auras toujours moins de gestionnaires qu'un employé. Donc, en effet, ça peut avoir l'air élitisme un peu parce que on sait bien, les budgets de formation, c'est dans le haut de la pyramide, puis il n'y a rien en bas. Il y a une différence, moi, que je fais entre la formation et le savoir organisationnel. Donc, pour moi, le savoir organisationnel est la base de ta business. Parce que, ultimement, les personnes qui vont monter dans la pyramide, tu veux qu'ils soient le plus qualifiés. Donc, ils devraient de toute façon avoir ces notions-là ou, minimum, y avoir accès pour la journée qu'ils en auront besoin. Donc, la notion de démocratie, la formation, pour moi, est hyper importante parce que, justement, l'amélioration continue, si je reprends le terme, c'est la responsabilité de tous. Donc, une des raisons pour laquelle les entreprises ne vont pas de l'avant, c'est que les projets de formation d'amélioration continue dépendent de trop peu de personnes. Donc, il devient un goulot d'étranglement dans les projets. Si les gens... Puis, tu sais, ça reste une gestion de changement. Là. Si tu pars d'une business qui n'a rien puis tu veux mettre ça en place, c'est du changement humain. Par contre, il y a un principe très 101 de base. Si les gens participent au plan, ils ne seront pas réfractaires au plan. Donc, plutôt qu'avoir une vision qu'on appelle top-down de la haute direction décide des projets de formation basés sur des indicateurs de performance qui, eux, estiment qu'ils ne sont pas assez bons, ils sont tellement loin des opérations qu'ils sont juste capables d'avoir le KPI sans le contexte et sans vraiment avoir une bonne idée de qu'est-ce qui le génère. Des fois, ce n'est même pas un enjeu de compétences. Des fois, c'est juste un enjeu de ressources matérielles. Donc, moi, je suis beaucoup plus bottom-up. De dire, collabore avec tes gens pour identifier, hey, puis tu sais, ça peut être fait de façon départementale, ça peut être fait par projet, peu importe. Puis, une rencontre très simple. Hey, on peut-tu juste partir sur... T'sais, on a besoin de ancrer le tout sur une croyance commune pour rallier les gens. Hey guys, on veut-tu tout être moins mauvais? On aimerait tout ça que votre job soit plus facile? Oui, parfait. Bon, on s'est entendu sur un pilon commun, on va bâtir là-dessus. Ensuite, OK. La place où on est plus mauvais, c'est où? Puis là, on a un débat de hyper officieux, sain, pour amener les gens à mentionner c'est où qui, eux, vont trouver qu'ils sont le plus mauvais individuellement, mais collectivement aussi, déterminer aussi si tu es à cause de compétences ou ressources matérielles, et on en vient à un consensus. De dire, bon, mais gars, on ne sera jamais capable d'avoir l'unanimité. Mais minimalement, si on est capable d'arriver à un consensus majoritaire, de dire, bon, mais gars, basé sur ce qu'on a dit à la gang, est-ce qu'on s'entend que si ce n'est pas la priorité pour tout le monde, numéro un, ben c'est quand même une des priorités pour tout le monde. Puis on ne peut pas tout faire en même temps, comment c'est que ça? Nice. Fait que là, on a consolidé l'élément de sur quoi on va travailler. On s'est donné un objectif commun. Histoire que déjà là, sans rien faire, si je suis témoin de quelqu'un qui travaille tout croche, je vais être capable d'y mentionner des conseils ou quoi que ce soit parce qu'on a déjà établi qu'on doit s'améliorer là-dedans parce qu'on veut que notre travail soit plus facile. Ensuite, c'est déterminé. Bon, c'est là que moi, je veux vraiment renouer la relation entre les opérations et les RH parce que malheureusement, la formation, c'est trop garoché dans les RH. Les RH sont là pour aider à la logistique. Mais les RH, ils n'ont aucune christie d'idée réelle du besoin de formation sur les opérations. On va s'appuyer sur un indicateur de performance qu'on veut améliorer. On va demander aux opérations qu'est-ce qu'on a besoin pour l'améliorer. Et lorsqu'on aura identifié c'est quoi, là, on va relier aux ressources humaines. Hey, on a besoin d'améliorer cette compétence-là. Peux-tu aller regarder qui seraient des bons candidats pour nous aider dans ce processus de formation-là? Les RH vont prendre le relais avec la logistique. Mais ce n'est pas eux qui vont l'aider le projet. Ça doit être initié par les opérations. Et puisqu'on l'initie par les opérations, d'habitude, on a plus d'adoption de la haute direction parce qu'on est plus proche de l'argent. Et de là, ben, ça devient un projet collaboratif, encore une fois. Donc, hey, gars, on a identifié qu'on veut s'améliorer dans un objectif commun. On a déterminé par où on commence. Les ressources humaines nous arrivent avec une proposition, deux, trois propositions. Lequel des formateurs là-dedans vous parle le plus ou l'approche vous parle le plus parce qu'ils n'ont pas nécessairement tous le même format ou véhicule de formation. Donc, ton employé qui est tout le temps en train de donner son input pour que la journée qu'on lui demande de faire une formation, c'est pas exactement ce qu'il a demandé nécessairement, mais on n'est pas loin, là. Donc, il va moins se battre contre la formation. Il va arriver dans un meilleur mindset, plus réceptif, meilleure rétention, meilleure amélioration, meilleure augmentation de ton KPI. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vraiment pour les éléments écart de compétences, mais dans un élément où tu amènes de la formation puis de la compétence externe. Si on ramène ça maintenant sur le savoir vraiment organisationnel pur, tu ne peux pas avoir, à titre de gestionnaire, des ambitions que ta business s'améliore si tu ne prévois pas du temps pour que tes employés s'améliorent. Et s'améliore comment? Et s'améliore en étant exposé à des meilleures façons de faire et en documentant leur savoir. Le simple fait d'enseigner va faire que tu vas être meilleur dans ta tâche parce que tu revalides la façon que tu exécutes quelque chose. Et de là, on est dans une dynamique de « Ah, ben qu'est-ce que tu... Je le savais pas que tu le faisais le même, puis c'est vrai que c'est mieux. Moi, changer ma façon de faire. » Ou à l'inverse, ça va me solidifier dans ma conviction que ma façon de faire est mieux. Et de là, c'est ma job de te prouver. Puis je veux dire, les chiffres vont parler. Mais d'être capable de dire sur une base régulière, sur une cadence, que ce soit une demi-heure par semaine, que ce soit peut-être bien une heure par mois, peu importe, qu'il y a du temps d'allouer à tes ressources, un vendredi après-midi pour « Hey, gars, c'est quoi la chose que tu as répété le plus ce mois-ci qu'il n'y a pas d'éléments de pièce de contenu? » Et la responsabilité de l'employeur, maintenant, c'est de fournir la recette, le gabarit. Tes employés, ce n'est pas des pédagogues. Il faut que tu leur fasses un prêt à enseigner. Là, voici un beau petit gabarit. C'est quoi le titre de la pièce de contenu? Ta pièce de contenu, là, 5-7 minutes, pas plus. On veut une approche collation. Parce que la journée que l'employé qui ne sait pas comment faire doit aller regarder une pièce de contenu, il n'y a pas une heure de lousse, là. Lui, il veut retourner travailler, ça prend de quoi de rapide. Donc, titre, l'objectif spécifique, comment tu y es, comment toi tu le fais et pourquoi tu le fais. Donc, ton savoir de l'organisation, ça peut être un combiné de plein de petits contenus vidéo qui ensuite sera bonifié, au pire, et packagé par les RH. C'est comme, ah, tout ça, ça fait du sens, puis ça va nourrir les parcours de formation qu'on veut pour mieux soutenir les parcours de la qualité d'intégration, pour mieux standardiser nos processus, pour dire, hey, gars, on a 4 personnes qui ont fait des pièces de contenu qui ont en réalité le même objectif sur des façons différentes. On va s'entendre. On vient de faire l'inventaire des façons différentes de travailler, puis c'est pas normal, parce que si on veut optimiser, il faut tout travailler de la même façon. Fait qu'on va saisir cette opportunité-là, l'angle mort qu'on vient de déceler pour dire, bon, mais laquelle qu'on garde, les chums. Fait tu sais, il y a plein de façons de le mettre en place, mais tout part de la notion de collaborer avec tes employés là-dedans pour que justement la création de contenu, ce soit la responsabilité de tous. Et l'amélioration continue, ce soit la responsabilité de tous parce qu'ils ont accès au contenu centralisé et savent où est-ce que c'est.
Ouais, puis dans ce que tu dis, tu sais, le point important, je pense que c'est justement, c'est que les RH ne sont pas les experts dans le sujet, tu sais, puis c'est vraiment, comme tu dis, un vecteur de logistique parce que tu as besoin d'avoir tes experts de contenu qui sont tes gens du plancher des opérations, des experts de contenant qui vont être les personnes qui vont venir installer tes gabarits, qui vont venir montrer comment monter ta formation ou qui vont venir le faire pour toi, des experts plus en pédagogie, puis tu vas avoir des experts qui vont venir la logistique de la diffusion de la formation. Parce que, ultimement, si on continue de laisser le pas sur la RH, c'est que là, tu sais, quand on parlait justement des facteurs de motivation, bien, c'est que le monde, s'il voit pas que ce qui vaut la peine puis qu'est-ce qu'ils vont y gagner parce que ça fait aucun sens, bien, automatiquement, tu intuites ta motivation. Puis, tu sais, après ça, ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'était justement, tu sais, de déceler des angles morts avec les sujets de formation proposés, de dire, OK, là, il y a comme 3 sujets proposés de la même sur la même chose, mais de façon différente, bien, c'est que ta formation, à ce moment-là, elle devient... tu sais, quand on dit que tout est dans tout, c'est que ta formation devient un vecteur d'amélioration continue et non juste quelque chose que tu es obligé de faire. Tu sais, c'est que tu peux t'en servir avec une lunette différente pour dire, OK, bon, bien, on décèle plein d'informations, puis tu te sens moins en mode, bon, je suis en train de mettre de l'argent dans la formation parce qu'il faut... Tu fais du bottom-up avec ta formation. Je trouve ça super intéressant. Je voulais juste...
Ça.
C'est un surligneur verbal, là. Je te dirais que moi, le highlight.
Et ça, pour plusieurs personnes, ouvrir, mettons, ce type de projet-là va devenir overwhelming. Ça va faire peur parce que ça fait tellement d'années qu'ils ne l'ont pas fait que là, ça nous expose à donc ben d'angle mort et donc même place qu'on n'est pas bon puis qu'on pourrait facilement s'améliorer. Puis là, on passe de « on n'a jamais rien fait » à « il y a tout à faire ».
Mm-hmm. Ouais.
Mais la réalité, c'est que accepter que c'est pas une montagne, c'est juste une très longue marche dans des escaliers, une marche à la fois.
Mm-hmm.
Donc de là, c'est de la gestion de priorité en tout temps. C'est sûr que plus tu es capable de fournir un gabarit, des outils pour que les personnes, comme je dis, se soient prêtes à enseigner, plus tu vas être capable de monter tes marches rapides parce que plus tu as du support et plusieurs personnes peuvent travailler en parallèle. Donc, tu peux monter des paliers plus vite. Mais à toi, tu as quand même des ressources et du temps limité. J'ai l'impression que 100% des entreprises vont s'identifier dans ce pattern-là. T'sais, faire une chose va toujours être mieux que ne rien faire.
Oui.
Faire une chose sur une cadence régulière, c'est là qui est le secret.
Mm-hmm.
Parce que si tu fais une chose, tu laisses mourir la chose que tu as faite. Non seulement, tu aurais été mieux de rien faire, mais là, ça t'a coûté de l'argent pour aller faire de quoi qu'il va mourir. Donc, tu sais, c'est un projet que tu sais, ça commence quand, ça ne finit jamais. Fait que, tu sais, ne voyez pas la montagne. Exactement, mais tu sais, très souvent, je vais voir des entreprises essayer de prendre ça en formule plus sprint. On va donner un coup là, puis on y reviendra plus tard. Ça ne fonctionnera pas bien, malheureusement. Mmh. Puis tu sais, si je reviens là-dessus, je vois de plus en plus de business qui ont la volonté, puis qui ont juste besoin d'outils, d'inspiration, ou la petite poussée pour les amener à, OK, en effet, briser cette montagne-là, à c'est quoi ma première marche à moi? Écrivez-moi, là, je vais vous en fournir, c'est juste, mettons, un tableau de gestion des priorités pour être capable de mieux documenter on est mauvais dans quoi, puis un petit calculateur qui enlève l'émotion basé sur un ratio de calcul, ton effort, ta rentabilité, ton coût, puis l'impact, puis ça va un beau petit code de couleur qui va dire « Commence par celle-là, parce que c'est elle qui a le meilleur potentiel de retour sur investissement. » Des fois, elle va être grosse, des fois, elle va être petite, mais je veux dire, c'est un calcul. Il n'y a pas d'émotion, tu n'as pas de biais personnel, tu n'as pas d'aspect politique dans la business. C'est juste très froid de « Commence par ça, ta business va être dans une meilleure position. » De toutes les options que tu peux faire, c'est elle la plus importante présentement. Puis on délègue. Comme je vous dis, vos RH sont déjà en infériorité numérique à essayer de juste se garder la tête par-dessus l'eau, à juste faire du clérical, même s'ils aimeraient ça faire du stratégique, ils n'ont pas le temps. Allez pas leur garrocher en plus la responsabilité des formations. Qu'est-ce que vous allez tuer?
Ah oui.
C'est hyper ingrat de leur donner une responsabilité qui ne leur appartient pas, minimum à 100%. C'est des facilitateurs, ce n'est pas les responsables pour moi.
Mmh. Oui, puis c'est de prendre chaque opportunité qu'il y a de documenter ce qui se passe dans l'organisation. Mmh. Tu sais, chez Didac, vous le faites quand la personne va partir en congé, tu sais, vous documentez ce que la personne fait comme travail pour qu'elle puisse être remplacée, puis après, ben, ça reste dans l'entreprise, cette formation-là. Tu sais.
Oui, puis on a une pratique qu'on a. T'sais, nous, mettons, par année, on investit minimalement que les employés savent que c'est disponible, 2% du salaire de l'employé est disponible pour des dépenses de formation sur ce qu'il veut, tant que c'est cohérent. La seule demande que j'ai, c'est si j'investis dans toi, dans une formation, c'est systématique, tu vas me faire une synthèse, une micro-formation sur une de nos plateformes internes, juste pour que ce que tu as appris, puis que tu estimes qui est pertinent pour toi, puisse rayonner sur l'ensemble des autres employés. Donc, tu sais, mettons, puis j'en ai un qui est super bon, Guillaume Olivier, un de nos développeurs, tu sais, c'est le plus junior, je vais dire, dans nos développeurs back-end, mais il crée des pièces de contenu sur les bonnes pratiques qui bénéficient aux seniors. Juste parce que, ouais, mais tu sais, voici comment qu'on devrait faire notre code review. Les seniors, ça fait 10-12 ans qu'ils en font, lui a fait de la formation, puis comme, tu sais, basé sur la façon que vous m'avez formé, bien, voici toutes les opportunités que je pense qu'on pourrait collectivement mieux faire. Allez regarder la pièce de contenu-là, c'est ma synthèse, un petit vidéo, des exemples. Puis mes seniors sont super, je veux dire, sont super réceptifs par rapport à ça. Ils peuvent aller chercher le bénéfice de la formation sans faire la formation et faire plus de code. Tout le monde y gagne, là.
Ouais, c'est clair. Oui. Puis tu sais, ça ramène au fait que la démocratisation de la formation, mais tu sais, ça donne justement le pouvoir de se dire que plusieurs personnes peuvent créer et accéder à du contenu. Là, tu as un exemple. Moi, je crois fondamentalement que tout le monde est junior et senior dans d'autres choses. Fait que même si t'es senior, tu vas être junior dans d'autres choses, à l'inverse. Puis, tu sais, quand on parle de démocratiser la formation, on est aussi avec l'ascension quand on a un modèle hiérarchique pyramidal, par exemple, de dire que quand tu démocratises l'accès à la formation ou l'accès à donner de la formation, tu viens enlever un pouvoir au stéréotype de leadership dans le sens où quelqu'un peut démontrer son leadership autrement ou démontrer qu'il est de valeur avant de se faire de façon très extrinsèque, foutre dans un pipeline de haut potentiel d'entreprise, pas haut potentiel intellectuel, mais haut potentiel d'entreprise, où ce que là, il y a une espèce d'élitisme qui peut venir se créer. Fait que, tu sais, par exemple, la personne que tu mentionnes, tu sais, qui crée du contenu, ben il gagne en crédibilité auprès de ses pairs, il gagne en leadership, mais peut-être pas un leadership traditionnel ou stéréotypé comme on le connaît. Puis on se permet après ça d'avoir beaucoup plus de compétences qui vont de personnes compétentes avec des valeurs ajoutées qui vont venir grandir dans l'organisation, mais qui n'auraient peut-être pas été celles qu'on aurait suivies parce que c'est elles qui parlent le plus vite puis le plus fort en meeting.
Exactement. Puis tu sais, ça fait que tu vas étirer aussi le potentiel de durée de vie de ton employé dans son rôle aussi. Mm-hmm. Guillaume Olivier peut rester dans son rôle super longtemps parce qu'à chaque fois qu'il fait ça, il renouvelle son sentiment de fulfillment, comme je disais tantôt, t'sais, il revalorise sa position dans l'entreprise de façon différente que juste par le stéréotype de j'augmente ma valeur dans l'entreprise juste si j'ai des promotions. Mm-hmm. Absolument pas, là. T'sais, c'est quoi l'impact que tu as dans l'entreprise? Et tu peux amplifier ton impact dans l'entreprise sans changer de chaise pendant plusieurs années, juste par différentes méthodes de contribution et comment tu bénéficies à l'ensemble des gens. Une entreprise, c'est un ensemble de personnes. Tu veux que le gain d'une personne soit exponentiel sur les autres par la suite, histoire que leur amélioration qui découle de ça ensuite devienne exponentielle sur d'autres choses et ainsi de suite. C'est créer un premier domino. Mais c'est ça une culture d'apprentissage. C'est que si quelqu'un apprend quelque chose, comment est-ce que la synthèse de tout ça bénéficie à l'ensemble de l'organisation lorsque pertinent?
Mm-hmm. Non, exactement. Puis. Oui, ben, on s'en allait faire de la germaine du temps. Hein?
Oui, c'est ça, les deux. On est comme, oh mon Dieu, mais on parlera encore des heures.
Ah,
oh,
vraiment?
Mais, il y avait tellement de choses dont on voulait discuter qu'on n'a pas discuté. C'est normal. Écoute, l'heure a passé comme ça, comme un éclair. Mais merci beaucoup, Mathieu.
Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli.
Avec plaisir. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter vers la fin?
Honnêtement, si je ne vous ai pas convaincu, en fait, dans ma tête, ceux qui écoutent n'avaient pas à être convaincus. S'il manque de la viande à convaincre vos patrons de passer à l'action, je vous mets au défi de soit de mettre en relation avec eux autres ou de m'écrire. Puis je vous garantis qu'il n'y a pas un outil que je n'ai pas ou que je ne peux pas créer pour vous court terme qui débloque votre projet. Mm-hmm. Quelle est la pièce manquante pour faire avancer votre projet? Je peux pas inventer du temps. Évidemment, là, je peux pas inventer de la volonté. Mais si la volonté est là, et c'est une question de ressources, prenez le pari de m'écrire. Vous allez voir que très souvent, le constat de mon monde, c'est comme, ah, Chris, c'était juste ça. Avoir su, je l'aurais fait plus vite. Je suis comme, ben oui, c'est juste ça. On va simplifier votre vision et votre compréhension. On va enlever de l'incompréhension, surtout, parce qu'il y a beaucoup d'inaction qui découle de je sais pas comment faire, je sais pas par quel bout. Comme, hey, on va juste faire le ménage dans votre pensée pour vous donner un beau petit plan de match de étape 1, 2, 3, 4, 5, c'est fait. Merci, bonsoir, votre business s'emporte mieux.
Ouais. On va donner tes coordonnées, bien sûr.
Ouais, puis tu sais, si je me permets un peu de refaire la boucle sur la trame de fond de tout ce qu'on s'est dit, tu sais, je pense que justement en passant par des actions concrètes comme ça, puis la démocratisation de la formation, on vient après ça briser cette espèce de cercle vicieux-là au niveau des traumas de l'apprentissage, au niveau des bloquants, au niveau des irritants, puis de se donner la chance justement après ça à plus de personnes dans l'organisation, de personnes parfois aussi qui vont être neurodivergentes, qui ressortent pas nécessairement comme étant les premiers leaders choisis, puis qui sont souvent pris dans des strates très opérationnelles de l'organisation alors qu'ils voudraient croître. Ça leur donne cette opportunité-là de croître en dehors des stéréotypes, puis de rayonner d'une façon qui leur convient, qui leur ressemble. Fait qu'en tout cas, j'avais envie de faire cette boucle-là juste pour...
Est-ce que je peux me permettre une dernière opinion, je vais dire à titre d'entrepreneur?
Oui.
Si vous êtes une business d'exemple plus de 100 employés profitable, vous n'avez pas le droit de dire que vous n'avez pas le temps et les ressources. Okay, moi, des business qui font 500 000, 1 million, 2 millions de profits qui me disent qu'ils n'ont pas le temps et les ressources, je m'excuse, vous n'avez pas la volonté. Et pour ramener ça sur la neurodivergence, il n'y a pas meilleure personne qu'une personne justement comme avec, soit, mettons, je reviens avec mon Daniel. Les personnes avec un profil neurodivergent, très souvent, ils ont besoin de clarté, donc c'est les meilleurs à documenter. C'est des ressources incroyables pour mettre dans une position d'amélioration continue parce qu'ils vont aller vous tanner sur « Explique-moi concrètement pourquoi tu fais ça et comment tu le fais. » Ça va vous challenger dans vos processus et ils vont le mettre sur papier. C'est des personnes que vous devriez avoir dans votre entreprise. Ils devraient vivre dans l'ombre des personnes qui ont le plus de savoir critique à risque de partir dans votre business. Et de là, je veux dire, je veux pas positionner de salaire, là, mettons, c'est un 60-70 000 qui a le meilleur retour sur investissement possible si tu l'attaches en haut du président ou bien à la limite, justement, des chefs d'équipe ou vos vieux vétérans. De juste, moi, ma job, là, c'est de sortir tout ce que tu as dans ta tête. Fait que parle-moi de tout, puis je vais documenter. C'est des personnes qui vont être bons, qui, je ne veux pas faire de généralisation, mais je pense qu'ils vont aimer ça parce que c'est une façon facile pour eux de contribuer et de maximiser aussi leur, je veux dire, leur façon plus structurée et leurs besoins de structure, surtout pour réfléchir, pour en faire quelque chose qui bénéficie à l'organisation complète.
C'est ça, ça peut faire des belles situations de gagnant-gagnant. Mais non, merci pour cette dernière pépite ultra pertinente et importante. Et non, mais comme on dit, là, j'aurais continué forever and ever, mais il faut s'arrêter. Fait que question de pouvoir bien te suivre si c'était l'intérêt des personnes qui nous écoutaient. Fait que on a parlé de ton feu, podcast, les instigateurs qui sont intéressants. Si quelqu'un
qui en a un entrepreneuriat,
tu en as un nouveau, c'est ça?
Exactement, Divergence avec... Podcast Divergence avec Catherine Dubé de chez Koboom, qui a un nouveau projet sur les bonnes pratiques. Là, on s'attache justement plus aux gestionnaires que les RH pour amener les gestionnaires à comprendre qu'il y a bien de l'opportunité manquée, entre autres avec les ressources humaines. Donc, on essaie de vous créer des alliés. Puis sinon, sur LinkedIn, Mathieu Dumont, je suis la personne la plus facile à rejoindre. Ça ne devrait pas être compliqué si y a un intérêt ou des questions.
Effectivement, excellent. C'est très facile d'accès et très sympathique. Fait que merci.
c'est moi qui vous remercie.
Ben, à tout le monde dans 2 semaines, et puis bonne
nuit.
Bye. Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.